Chapitre 24. Hollister pensait avoir encore 8 ou 10 balles, mais la rafale envoyée sous le pont a été plus gourmande qu'il ne l'imaginait, car le chien retombe à vide lorsqu'il appuie sur la détente une 5e fois. Il dispose de 3 chargeurs pleins, disséminés dans les poches de sa combinaison, mais il n'a pas le temps d'en prélever un. La motoneige s'enfonce dans la nuit et Hollister se lance à sa poursuite tant bien que mal. Il court vite grâce à son excellente forme physique, mais jamais il ne parviendra à rattraper Buckle. Il se contente de rester le plus près possible de l'engin pendant quelques secondes, son oreillette lui permettant de contacter ses équipes de sécurité s'il se trouve à moins de 10 mètres de l'émetteur installé sur le véhicule. « Buckle s'est emparé de la motoneige! Trouvez-le et tuez-le !» Et tandis que cet enfoiré de cinéaste disparaît, avalé par le blizzard, Hollister prend le temps de souffler, les poumons en feu. Il sort un chargeur, remplace le précédent et tire une rafale au jugé. Ses chances d'atteindre sa cible sont pour le moins limitées, mais il s'entête et recommence, conscient que ses talents de tireur, son intuition et son instinct guerrier lui permettront peut-être d'atteindre le fugitif. Une ultime rafale achève de vider le chargeur. Il attend, tous les sens aux aguets, avant de comprendre que la chance ne l'a pas servi. Il se débarrasse du chargeur vide, le remplace par un 3e et rengaine l'arme. Les Rayshaws ne tarderont pas à rejoindre leur maître, grâce au GPS autonome cousu dans sa combinaison. Par précaution, il a également veillé à ce que la combinaison de Buckle soit équipée d'un mouchard. Soucieux de respecter son engagement d'une chasse équitable, Hollister n'a pas surveillé jusque-là le signal émis par sa proie, mais il est temps de reprendre la main. Quand bien même Buckle finirait par abandonner la motoneige, ses poursuivants seront en mesure de le localiser à tout instant. Hollister a joué le jeu jusqu'à présent, en veillant à ce que les chances restent égales. Mais Buckle refuse de se battre en homme. Au moment où il avait l'occasion d'affronter son adversaire avec une arme, il a préféré se tapir dans un trou, tel un rat, puis prendre la fuite au volant d'un engin qui ne lui appartient pas. Hollister n'a plus aucune raison de respecter un ennemi aussi vil. Tom Buckle vient de lui apporter la preuve qu'il mérite tout son mépris et doit être exterminé au plus vite. Les gants du milliardaire sont suffisamment flexibles pour qu'il puisse se servir de son arme sans les retirer. Mais ils sont en revanche moins chauds que ceux du cinéaste, ce qui l'oblige provisoirement à glisser ses mains douloureuses dans les poches parfaitement isolées de son pantalon. Le vent glacé traverse les mailles de sa cagoule, et il lui faut tourner le dos au bourrasque. Les Rayshaws seront sur place dans 10 minutes. Il a veillé à ce qu'il reste en alerte. Tête baissée, le dos labouré par les rafales de neige, il finit par se résoudre à trouver un refuge et remonte ses empreintes à demi effacées jusqu'au pont. Il se trouve à mi-chemin lorsqu'une tache rouge vient troubler le blanc immaculé qui l'entoure. Surpris, il tourne la tête et constate qu'il ne s'agit pas d'un mirage, mais d'un tissu qui s'agite avec la vivacité d'une flamme dans la tempête, à quelques mètres de lui. Il reconnaît la teinte bien particulière du foulard avec lequel Mai Mai, entièrement nue, dissimulait le pistolet dont elle a avalé le canon avant de répandre le contenu de sa jolie tête sur la terrasse. Le spectacle est si inattendu que Hollister, hypnotisé, ne prend même pas conscience de s'être figé sur place. Les chances que ce foulard, emporté par le vent au moment du drame, fasse son apparition ici et maintenant, sont infinitésimales. Le tissu, alourdi par une croûte de neige glacée, aurait dû se perdre au milieu des bois, retenu à un arbre ou bien prisonnier d'une congère. Il est pourtant intact, tel qu'il était lorsqu'il a glissé de la main de Mai Mai. À cet instant précis, il devrait être emporté par le vent, mais il continue de flotter librement, semblable à une flamme de chandelle, comme si la tempête n'avait aucune prise sur lui. Hollister en reste bouche bée. Soudain, le foulard se retrouve à terre, où des tourbillons le poussent en direction du milliardaire qui recule machinalement, afin d'éviter l'étrange méduse qui tente de le rejoindre. Elle le frôle en ondulant, comme mue par une force intérieure, avant de disparaître. Hollister reste paralysé pendant un long moment. Le foulard semble avoir tracé dans la neige une ligne invisible qu'il n'ose pas franchir. Il n'est pas superstitieux. Les fantômes n'existent pas. Aucun esprit ne reste après la mort pour hanter les lieux et les individus, tout simplement parce que l'âme est un leurre. Les humains sont des êtres pensants de chair et de sang, rien de plus. Les superstitions sont de simples toxines, produites par des esprits faibles, gangrénés par l'imaginaire et la philosophie. Wainwright Hollister refuse de se laisser influencer par l'apparition de ce foulard rouge, en lequel il veut uniquement voir la preuve d'une logique propre à un univers d'une complexité infinie. Il sent à nouveau la morsure du froid, entend la plainte du vent qui s'était provisoirement tue dans sa tête. Il traverse la ligne invisible tracée par le tissu de soie et se hâte de gagner l'abri du pont.